Lundi 9 février 1998, cours de Rav Eman Shirashirim au cercle du Frénois.
Afirigani Zouve Samav, Yavod Odi Logano, Veyochal Prim Gadaf. Uri Tzafon, notamment réveillez-vous. Réveille-toi, Tsafon du Nord, ou Voïteman, et venez, Teman c'est le Sud, à Fichrigani, faites souffler, ou souffler, les vents Gani dans mon jardin. Yizloub Samav, que se répandent ses parfums. Yavod Odi le Gano, que vienne mon ami à son jardin, Veyochal, et qu'il mange Pri Megadav. On a déjà dit Megadim, ça veut dire délicieux. Les fruits délicieux du jardin. Donc ici en vérité le verset doit être séparé en deux. Uri Tzafon Voïteman. Rashi traduit. Je fais souffler les vents et du nord et du sud vers mon jardin Yizloub Samav afin que le parfum puisse être répandu. Ça, c'est Dieu qui parle au peuple juif. Et le peuple juif répond, Yavod Odi Logano, que vienne mon ami Logano dans son jardin, Veyochal, et qu'il mange Pri Megadav. Comprendre quelle est la question et quelle est la réponse. Il faut savoir il y a un verset que tout le monde connaît dont les non-juifs disent que c'est le pessimisme d'Israël. Tout le monde connaît le verset Ashivenu Hashem et Lecha Benashuva. Ashivenu, fais-nous revenir vers toi, Benashuva, nous reviendrons. Chadesh Yamenu, fais revenir nos jours que Kedem, comme par le passé. Kedem, il s'agit du jardin d'Éden, qui s'appelle Kedem dans la Torah, et la référence, c'est la référence d'avant la faute. Alors attention. Lorsque nous disons Hashivenu Hashem Elecha Benashuva, fais-nous revenir Chadesh Yamenu Kekedem, c'est-à-dire qu'on reprenne avant la faute. On peut le comprendre dans l'incapacité du peuple juif de se mesurer ou à l'histoire ou à la vie ou au Yetzerara, à ce qu'on veut. Quand on dit Chabesh Yamenu Kekedem, ça veut dire si jamais on n'avait pas passé tout ça, ça aurait été mieux. Il lui est mieux valu s'en tenir à avant la faute. Alors qu'il y aurait une conception qui serait plus optimiste de l'histoire, qui fait que non seulement on assume la faute, mais qu'on la transcende. C'est pour ça que, on verra souvent dans la littérature non juive, l'échec du peuple juif, c'est de vouloir toujours retourner en arrière. C'est-à-dire ne pas s'assumer dans les difficultés de la vie. D'un côté, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que celui qui est clairvoyant, il sait qu'il n'a pas toujours réussi. Et il aurait bien voulu vivre dans un monde qui ne soit pas éternellement le monde de la difficulté ou le monde de l'épreuve. Ça, c'est une chose. Donc c'est vrai que d'un côté, le peuple juif, son espoir, c'est de retrouver un monde d'avant la faute. Mais attention, d'interpréter la cause en disant que c'est la peur ou que c'est l'insuccès de l'histoire qui fait que le peuple juif n'a pas réussi son histoire et que donc il voudrait retourner en arrière, ça c'est déjà une interprétation du verset. Lorsque nous disons « Chadesh yamenu kekelem », c'est-à-dire « il eût mieux valu que l'histoire n'existe pas », il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas seulement de dire « voilà, c'est un constat d'échec », il y a peut-être autre chose là-dedans. Et c'est ça qu'on devrait déterminer. Ici a marqué Samav. Ça veut dire que Dieu parle du moment où les problèmes se résoudront. Ça veut dire où on récoltera les fruits. Lorsqu'on dit prime d'Adab, les fruits délicieux, ça veut dire qu'ils ont été plantés par le peuple juif. C'est l'histoire du peuple juif. Ça m'a ici une réponse. Yavo dodi le gano veyochal prime d'Adab. Yavo dodi le gano, ça veut dire que Dieu vienne, le gano, dans son jardin, veyochal prime d'Adab, et qu'il puisse manger les délices, ça veut dire apprécier ce que le peuple juif a fait à travers son histoire. Donc si on regarde du point de vue de Dieu, alors il y a marqué Yezlou Vesamav. Ça veut dire que puisse éclore le parfum des fruits qui ont été plantés par le peuple juif. Ça veut dire qu'il faut une conclusion, il faut à un moment qu'on goûte les choses qu'on a plantées. C'est-à-dire que le messianisme, du côté de Dieu, c'est le fait pour le peuple juif de pouvoir vivre selon le statut que lui-même a introduit dans le monde. Yizou Besamar, c'est-à-dire que se répandre son parfum, ça veut dire que le peuple juif prenne une dimension, ou au moins que la Torah prenne une dimension qui soit universelle. Il est évident que lorsque l'on parle de la Torah, on ne parle pas de la Torah qui a été donnée au Sinaï. On parle toujours de la Torah qui est dans la tête du juif. Parce qu'on a déjà dit qu'il y a Torah Shebirtav et Torah Shebalpé. Il y a une Torah qui est une référence, c'est une loi. Et il y a l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, la pratique de la Torah. Ça, c'est le peuple juif. C'est pour ça que lorsqu'il est écrit le terme de Brit, l'alliance, la Gemara dit Lokarat Hashem Brit im Israël et la Torah Shebalpé. L'alliance entre Dieu et le peuple juif ne s'articule qu'autour de la Torah orale et pas de la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, c'est une référence. Il n'y a pas ni la véhiculée, ni pas la véhiculée. Alors que la Torah orale, c'est la vie du peuple juif. C'est la façon dont le peuple juif interprète et transmet cette Torah écrite. Donc lorsqu'on dit Yizlou Besamav, ça veut dire que voilà le résultat de tout le travail du peuple juif à travers toute la galoute. Qu'est-ce que le peuple juif répond ? Yavod odi le ganov yochal pri meganav. C'est-à-dire que ce que nous avons planté, finalement, c'est seulement pour que Dieu puisse goûter des fruits de son labeur. Donc il y en a un qui vient et qui dit à l'autre. Maintenant, va être exprimé tout ton travail. Et l'autre répond que ça n'a d'intérêt que s'il y a une satisfaction du point de vue du Créateur de sa création. Ça n'a pas d'autre intérêt. C'est ça le but de l'opération. Lorsque nous nous disons Khadesh Yamenu Kekedem, ça veut dire qu'on est reparti au point de départ, c'est-à-dire qu'on est arrivé à sublimer les choses au point de pouvoir vivre comme Adam Rishon, le premier homme, avant la faute. Ça ne veut pas dire qu'on veut éviter le monde de l'épreuve et qu'on rejette le monde du travail. C'est qu'il y a un moment où, lorsqu'on fait quelque chose, c'est pour aspirer à quelque chose. Pour expliquer ce verset et les versets qui viennent. On est obligé aussi de comprendre autre chose. Vous savez qu'il existe deux termes qui décrivent toute relation possible entre les êtres. Un, ça s'appelle, on appelle ça des kohot, les forces. Un, c'est ce qu'on appelle la netina. Netina vient du mot noten, donner. Il y a ce qu'on appelle le koach hanetila. Ça vient du mot notel, qui veut dire prendre. C'est-à-dire que les rapports entre les choses, entre les humains, entre Dieu et l'homme, ne peuvent se gérer qu'à travers ces deux kohot, ces deux forces-là. Une, c'est la netila. Je prends. Je dois me nourrir. J'ai des besoins. Je dois vivre. Et l'autre, c'est la netina. Je dois donner. Il existe dans l'homme ces deux forces. Et les deux sont indispensables. Tout le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on les fait marcher. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Le mot « noten » en hébreu ne signifie pas l'acte de donner, mais le fait que la chose soit donnée. C'est-à-dire le résultat de l'acte. Alors que le mot « notel » en hébreu ne signifie pas le résultat de l'acte, mais signifie l'acte de prendre. Le mot notel, la racine, c'est nun, tête, et vayet, moshe, et tiado, étendre la main. On étend la main pour prendre. On fait le geste de prendre. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de prendre, on ne parle pas de ce que tu as pris. On parle du geste. Lorsqu'il s'agit de donner, on ne parle pas du geste de donner, mais on parle du don lui-même. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce que c'est que le koach hanetina? Le koach hanetina, c'est le besoin qu'a chaque homme de pouvoir donner. Vous savez que c'est un besoin qui est intrinsèque dans l'homme. Il doit provenir de sa création même, puisque il vient lui d'un don, Netina, puisque l'homme a été donné à lui-même. La vie a été donnée à l'homme. Et chacun éprouve le besoin d'apporter quelque chose. D'un autre côté, chacun éprouve le besoin aussi de prendre. On va essayer de comprendre comment ça s'articule, la netina et la netila. La netila, tout le monde connaît. D'être notel, c'est de voir des choses sous l'angle de ce que je vais gagner. Ça veut dire que mes rapports avec les autres sont dans le sens qui est celui de j'ai besoin d'accumuler, je dois accumuler. Ça peut aller depuis celui pour qui le besoin est tellement fort qu'il est obligé de tuer, qu'il est obligé de voler. Jusqu'à celui qui est obligé de gagner. On appelle ça le koach anetila. Ce koach anetila, il est évident qu'il n'a été donné à l'homme que pour pouvoir se maintenir. C'est-à-dire qu'un homme qui n'aurait pas ce souci de prendre, il est mort. D'un autre côté, un homme a aussi ce besoin de donner. Comment dans les rapports on peut arriver à gérer le besoin qu'on a de donner avec le besoin qu'on a de prendre? On va essayer à travers deux histoires. La première histoire, c'est elle est racontée dans le Midrash Talpiot à propos d'un monsieur qui s'appelait Hanor, grand-père des Noirs. Et ce monsieur Hanor, il a marqué Vaïtaler Hanor et Aelokim, mot à mot. C'était un juste qui marchait exactement dans les voies de Dieu. Et le Midrash demande qu'est-ce qu'il avait de spécial Hanor ? Qu'on disait sur lui, c'est le seul dans la création, il y a marqué Vaïtale Hanor et Taïloki. Et la preuve, c'est que c'est un de ceux qui ne sont pas morts, puisqu'ils sont rentrés vivants dans le Gan Eden. Et le Midrash Talpiot dit ceci. Hanor, il était cordonnier. C'était son métier. Valkol Tfira ou Tfira. Chaque fois qu'il cousait un point pour faire une chaussure. Ayam yached yichudim. Mot à mot, le yached yichudim, si on veut essayer de traduire, ça veut dire qu'il faisait le nom de Dieu un. Le yached yichudim dans la Kabbalah, c'est de retrouver l'unicité de toutes les forces dans chaque chose. Vous savez que nous, on croit toujours ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais comme tout vient d'une même source, on va pouvoir retrouver ce qu'on dit, Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire qu'à travers toute l'histoire, on verra comment tout va vers un même but, ce qu'on appelle le Yached Yichud. Demande Rabbi Israël Salanter, si c'est comme ça, on n'avait pas besoin de raconter qu'il était cordonnier, parce qu'on n'a pas besoin d'être coordonné pour être Yached Yichudim. Et si c'est parce que c'était un bon cordonnier, alors un cordonnier, il n'a pas besoin d'être Yached Yichudim non plus. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Que Hanor, c'est un homme parfait. Chaque fois qu'il cousait un point, il était Yached Yichudim. Et il répond une réponse surprenante. Il dit Hanor, c'est pas que il avait le verset de Kabbalah dans la tête et qu'il était en train de concevoir des systèmes et des philosophies. C'est que chaque fois qu'il faisait un point, il essayait que ce point soit bien fait pour que la chaussure ne craque pas, pour être sûr d'avoir bien fait son devoir. Et c'est ça ce qu'on appelle le Yached Yichudim. Ça veut dire que réunir dans un acte qui a l'air petit, une mission qui est celle du Heter ou de Issour, de la Halakha, de la Mitzvah, et qui fait que chaque chose peut prendre une dimension énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà quelqu'un qui finalement, il est notel. Pourquoi est-ce que tu fais ce métier-là? Pour gagner de l'argent. Seulement le notel est passé derrière quelque chose de beaucoup plus grand. Il est notel. C'est qu'il essaye de faire d'une façon où il est sûr que l'autre ne sera pas déçu. Parce que c'est ça son boulot. C'est ça son obligation. Parce qu'il a pris une charge, même si elle est petite, c'est de faire des chaussures. Lorsque les chaussures craquent, on a pris ce qu'on a pris indûment. Donc on va justifier l'anotila, le fait de prendre, par le fait de l'avoir équilibré. C'est ça ce que Rabbi Yisrael Salam te rappelle le Yachad Yichudi. C'est-à-dire relier le haut avec le bas. Relier ce qui a l'air petit avec ce dont on sait qui est grand. On appelle ça le Yachad Yichudi. Et en vérité, si on réfléchit vraiment, on verra que le problème de Hachem Echad ou Shmo Echad, que le nom de Dieu soit unique, c'est ça. C'est comment relier les petites choses avec les grandes choses. Quand nous on croit qu'il y a un univers de petites choses qui n'intéresse pas les grandes choses, et un univers de grandes choses qui n'est pas intéressé par les petites choses. Et c'est en ça que le nom de Dieu n'est pas un, mais deux. Et une deuxième histoire. Ça c'est déjà 5700 ans plus tard. Tout le monde entend parler du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il disait qu'il y avait écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, à la 8e page d'après, la Gemara dit ceci. Gadol anene mi yegia kapav mi yerechet. Et plus grand celui qui subventionna ses besoins par le travail de ses mains que celui qui craint Dieu. Rabbi Chaim explique, il dit voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de yogi incapable de travailler de ses mains? Il y a aussi des intellectuels. On peut vivre sans savoir de servir de ses mains. En Yiddish, on dit il y a des gens qui ont deux mains gauches. Je ne sais pas travailler avec mes mains. Il Rabbi Chaim, ce qui est ici, le travail des mains, ça veut dire que quelqu'un doit avoir à cœur de pouvoir subvenir à ses besoins avec quelque chose dont il voit le résultat immédiatement. Un ingénieur, jusqu'à ce qu'on lui prouve que c'est pas exactement ce qu'il fallait, quand on travaille de la tête, on voit pas exactement les résultats. Mais lorsqu'on travaille avec ses mains, ou c'est bien fait ou c'est mal fait. Et il a illustré par sa propre expérience. Rabbi Chaim un jour a décidé à cause de ça, il va ouvrir un magasin. Il a ouvert son magasin. Et comme il prenait un bénéfice qui était moins grand que les concurrents, comme les comptes étaient bien faits, qu'il n'y avait jamais d'erreur, il a drainé toute la clientèle. Donc il a dit à sa femme, on va ouvrir aux heures où les autres ne sont pas ouverts, pour ne pas enlever la parnassa aux autres. Donc il n'a plus ouvert que 2 heures par jour. Lorsqu'il a remarqué que les gens attendaient ces 2 heures-là pour venir acheter au lieu d'acheter chez les concurrents, il a fermé complètement sa boutique. Il a vécu de la vente de ses livres. et pour être néné Migia capable. Il allait y travailler avec le reluant lui-même, et c'est lui qui empaquetait les livres, et c'est lui qui allait les porter à la poste pour les envoyer. Ça veut dire que celui qui est néné Migia capable, il peut arriver à ne pas être un hôtel. Il n'a jamais rien pris de plus que son prix. Lorsque je suis un intellectuel, je prends toujours plus. D'abord par risque de ne pas prendre moins. Et en plus, qui c'est qui va vérifier que j'ai pris exactement le prix? Ça n'a pas de prix, la tête n'a pas de prix, les conseils n'ont pas de prix, l'invention n'a pas de prix. La Gemara dit même que le savoir n'a pas de prix. Pas aller chez un médecin. Son savoir, il peut me demander comme ça, il peut me demander ça. Ça n'a pas de prix. C'est le sien. Les choses qui n'ont pas de prix, elles sont réservées à celui qui l'ont elle, celui qui veut prendre. Parce qu'il est attiré par le fait que ça n'a pas de prix. Donc les bénéfices sont immenses. Ce qui est pour nous une légitimité, qui est celle du marché ou celle du bénéfice, et que plus on peut faire de bénéfices, et mieux c'est. C'est exactement ce qu'on appelle le koar anotila. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'interdit. Il n'y a rien de péjoratif, si ce n'est qu'on essaie de prendre le plus possible en un minimum de temps. Ça veut dire que finalement, le moteur de l'homme n'est pas ce qu'il produit, ce qu'il investit, mais le gain. Maintenant, pour justifier le gain, il faut bien faire quelque chose. Mais même la chance, ça justifie le gain aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit très bien que quelqu'un a joué à la bourse. Il est très malin parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Et c'est le minimum de l'investissement, sa chance. Ça, on appelle ça la Nutila. La Nutila, elle n'est pas honorable. Pas seulement parce qu'elle ne profite à personne, à part à moi. Mais parce que même à moi, elle ne profite pas. Parce que lorsqu'on arrive au comble de la Nutila, alors on prend pour prendre. Parce que c'est ça qui est intéressant. La preuve, c'est qu'on ne s'arrête jamais. C'est ça que la Gemara a dit, en adam met, le chatzita avato biado. Celui qui meurt, il est évident qu'il a encore des plans pour une nouvelle vie qui durera aussi longtemps que la sienne. Il a des plans. C'est pas pour lui, c'est pour ses enfants. Il a toujours de quoi faire. C'est-à-dire que non seulement c'est pas productif, on va aller plus loin. Ça ne prouve pas l'être. Ça veut dire que c'est une entité qui peut absorber, mais elle peut ne pas exister en tant que telle. On n'absorbe pour rien. Ça ne prouve pas la personne. Ça ne prouve pas une construction. Mais comme on a dit que le mot Nutila vient du geste de prendre, du geste d'étendre la main, c'est le geste qu'on poursuit. Ce n'est pas le résultat. La preuve, c'est qu'on ne s'arrête pas. Parce que sinon, on devrait s'arrêter. Si quelqu'un sait s'arrêter, c'est qu'il a déjà une limite pour le Nutila. Alors on va demander, mais on a besoin de ça, c'est ça le moteur. J'ai dit souvent que ce qu'on appelle en hébreu le ra'avon, la faim, qui n'est pas seulement la faim pour la nourriture, c'est un ustensile dont on doit se servir. Et on peut s'en servir si ça n'est pas une fin en soi. On va essayer de savoir comment on peut s'en servir. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? On va essayer de voir. Pourquoi je donne? Vous savez qu'on a déjà parlé de ça, qu'on confond souvent la proximité l'adéquation des êtres que les gens appellent Ahava Amour. Avec la netila, c'est-à-dire le fait d'avoir trouvé chez quelqu'un de quoi prendre. Un sefer qui s'appelle Mirta Meliaou, il raconte une histoire intéressante pour prouver qu'on n'aime pas celui de qui on veut prendre. On finit même par le haïr, parce qu'il ne pourra jamais donner tout ce qu'on veut. Et qu'on change de goût par rapport à ce qu'on veut. Mais on aime seulement celui qu'on désire promouvoir. Ça veut dire la netina et pas la netila. Il raconte une fois, un couple est venu chez lui. C'est un couple qui a été séparé à la Première Guerre mondiale. Et la mère est allée se réfugier, et le père est parti avec un enfant. Ils se sont retrouvés 5 ans après. La mère, elle sentait qu'elle éprouvait moins d'amour pour son enfant. Elle ne le connaissait pas. Elle n'arrivait pas à entrer dans une relation forte avec lui. Alors qu'avec le père, ça marchait bien. Ils sont venus lui demander conseil. Et il dit que de là on voit que le père qui s'est occupé de l'enfant, qui a investi dans l'enfant, et la mère qui ne s'est pas occupée de l'enfant et qui n'a pas investi dans l'enfant, leur amour pour l'enfant est disproportionné. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on a produit. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle Ahava, c'est par rapport non seulement à l'investissement qu'on a fait, mais par rapport à ce dans quoi on se reconnaît. Lorsque j'investis, je me reconnais dans ce produit. Il y a une partie de moi. C'est ça ce qu'on appelle l'âme. Et il explique, il dit, lorsque la Torah me dit, Ve'avta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Ramban dit que le comme toi-même, c'est une gouzma, c'est une expression de la Torah. Parce qu'il y a des limites halakhiques à comme toi-même. La limite halakhique, tout le monde la connaît, on a déjà parlé de ça une fois. Deux qui vont dans le désert, et il y a une cruche pour les deux. Si les deux boivent, ils n'arriveront pas à la limite. Si un boit, l'autre va mourir. Celui à qui appartient la cruche, c'est à lui de boire. Il a une interdiction de partager ou de donner à l'autre. Parce qu'il y a marqué le chai achi chaimach. Ton frère vivra avec toi. Ça veut dire qu'un homme a la responsabilité de soi-même avant d'avoir la responsabilité des autres. Donc lorsqu'on dit ve'avta le reach akavocha alachiquement, c'est limité. Seulement, dans un autre sens, ce n'est pas limité. C'est que le kamocha comme toi, c'est pas pour dire que dans l'échelle des valeurs, toi tu dois te soucier de lui exactement comme de toi, puisque l'arriquement c'est pas valable. C'est pour dire que ce que tu dois aimer en lui, c'est ce que tu as investi de toi. Kamocha. Comme toi, comme le toi qui est en lui. Le avta, le reacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire tu dois investir en lui au point de reconnaître en lui ce que tu es. Ça veut dire que la Ahava ne doit pas venir de ce que tu peux avoir de lui, mais doit venir de ce que tu peux lui donner. Une des preuves, c'est l'amour filial. On a des enfants, on les connaît pas, on les aime déjà avant de les avoir. Et quand on les voit, on est rarement déçus. Surtout s'ils vous ressemblent. Ça veut dire que Vaavtalorecha Kamocha, ce qu'on a investi, c'est ce qui est le plus proche. C'est ce qui fait que le Koach HaNetina, c'est pas quelque chose de désagréable, ou ça n'est pas quelque chose qui est en dehors de la personne, c'est pas un sacrifice qu'on demande. Puisqu'en fin de compte, on ne demande à l'homme que de s'aimer soi-même. Ça veut dire qu'à la limite, de donner à l'autre, c'est que ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné. Avant de continuer, on va essayer de comprendre déjà le verset. Le bon Dieu propose au clan d'Israël quelque chose. Il lui dit, bon, on va s'arrêter, on va arrêter l'histoire, ça suffit. On va faire souffler les vents de la rencontre, chacun va venir de son côté. Yizou Besamav, c'est le moment où le peuple juif va donner sa mesure. Ça veut dire que le monde a été créé pour que ceux qui l'ont utilisé comme il faut puissent y trouver leur mesure. Qu'est-ce que le plan Israël répond ? Yavodo dit le gano, veyocha al prim ganav. Si ça n'est pas dans le sens que nous avons fait pour Akadosh Baruch Hu, alors ça n'a pas de sens. Ce que nous disons Khadesh Yamenu Kekedem, ça veut dire qu'on a l'ambition de retrouver l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu au moment de la création. Mais si ce n'est pas pour ça, c'est pas la peine. Quand on dit Kekedem d'avant, ce n'est pas par peur. C'est parce que c'est ça le but. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si c'est seulement pour moi, c'est pas à moi d'y penser. C'est à l'autre d'y penser. Et ça apprend à l'intérêt ce que l'autre y pense. C'est pour ça qu'il y avait un rave très connu, Rami Ponovitch. Il disait aux jeunes mariés, le jour où vous sentirez que vous n'avez pas envie de donner à l'autre, mais vous avez envie de recevoir, c'est à ce moment-là qu'il faut revérifier le mariage. Ça veut dire que le jour où quelqu'un il se rend compte qu'il demande à l'autre, mais qu'il n'a pas une envie pressante ou nécessaire de lui donner, mais qu'il regarde dans l'autre sens, c'est à ce moment-là que les choses elles tendent à basculer. Et il ne faut pas attendre pour recentrer les choses. Ce qu'on appelle la netila et la netila. En vérité, ça va un peu plus loin encore. C'est pas si simple que ça. On va essayer de comprendre. Il est écrit un verset dans Michelet. Sonne matanot, yichye. On va essayer de comprendre ce verset. Celui qui a la haine du cadeau, c'est lui qui va vivre. On a déjà dit souvent au nom du Maharal, mais ce n'est pas exactement notre propos maintenant, que le mot Chaim veut dire indépendance, ne veut pas dire vivre. Vaipar Bapo Nishmat Chaim, lorsque Dieu, Bapav Nishmat Chaim, lorsque Dieu a ensuite fait le souffle de vie à l'homme, il lui a donné une indépendance, c'est ce qu'on appelle la vie. Tout être indépendant est appelé la vie. Maintenant, on a besoin de se nourrir. On n'est jamais indépendant entièrement. C'est pour cela que le Targum traduit Nishma Traim, le souffle de vie, Ruach me malala, l'homme qui parle. Ça veut dire un homme qui est autonome dans son système. Mais cette autonomie a des limites. On aurait pu comprendre qu'un homme puisse vivre sans se nourrir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a assez d'humidité dans l'air et que on pourrait reproduire une mini-centrale atomique et que l'homme puisse produire sa propre énergie sans être obligé de la recevoir du dehors. Parce que le corps est tellement compliqué que ce n'était pas plus compliqué de faire comme ça. Ici, le bon Dieu a créé toutes les transformations chimiques qui sont par milliards à chaque instant dans tout ce qui se passe dans le corps. J'aurais pu faire une petite pile atomique, et puis on aurait eu l'énergie tout seul. Si on a créé le fait de se nourrir, c'est parce qu'il laissera toujours une dépendance. Cette dépendance, elle est par rapport à Dieu, et elle doit s'exprimer dans le fait d'être obligé de se nourrir. C'est-à-dire que même dans le Olam Haba, dans le monde futur, on n'envisage pas d'autres systèmes de relations entre l'homme et Dieu que celui de la nourriture. On appelle ça Nene Mizi Vashrina. Ça veut dire que la vie dans le monde futur, elle sera sous-tendue par une satisfaction. On aura besoin de cette satisfaction, qui est la satisfaction de la rencontre avec Dieu, pour pouvoir vivre. Parce que l'homme, n'étant pas indépendant, n'étant pas créé par lui-même, dépendra toujours de Dieu. Et ça, c'est le Kohar HaNetina le plus grand qui existe. Mais on peut aussi faire dépendre Dieu de nous-mêmes dans une certaine optique. C'est que ce qu'on a fait, on l'a pas fait seulement pour exister. On l'a fait parce que on était absorbé dans un projet. Et ce projet, c'est pas le nôtre. C'est ça la réponse du peuple juif. Bati, Yavododi le Ganon, Veyochal Primo Ganav. Ça veut dire que le fin, c'est que l'homme doit comprendre que même si Dieu, c'est pour lui qu'il a créé le monde, finalement c'est pour Dieu qu'il a créé le monde, parce que la première volonté, c'est pas celle de l'homme, c'est celle de Dieu. Et c'est ça qui donne le sens à l'homme d'être nourri par Dieu. C'est-à-dire que la satisfaction de Dieu au moment de la réussite du clan d'Israël, c'est ça la nourriture de l'homme. Ça veut dire qu'on peut se nourrir indirectement. On va essayer d'expliquer. Vous savez qu'il est écrit dans les Pirkei Avot, tout le monde connaît, Eizehu Ashir Asamer Bechelko. Qui c'est qui est riche? Celui qui est heureux de sa part. Mais on a toujours besoin de plus. Pourquoi et comment, par quel mécanisme on peut être heureux de sa part? Vous savez qu'en hébreu, le mot Ra'ev, avoir besoin, et le mot Ba'er, qui veut dire ne pas être intelligent, Ish Ba'ar Lo Yeda, c'est le même. Ça veut dire que dans le fait de vouloir prendre pour prendre, il y a une fausseté dans le système. On va essayer de comprendre. Il y a une seule créature qui ne s'arrête jamais de manger. Qu'on appelle le chazir en hébreu et le cochon en français. Et qui est tellement étudiée pour qu'elle mange n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle rend service puisque elle sert de poubelle. C'est vrai qu'il peut manger n'importe quoi, mais quel est le fou qui va manger n'importe quoi? Celui qui a envie de manger tout le temps. Celui qui a envie de manger tout le temps, il ne va pas toujours trouver exactement ce dont il a besoin. Alors le monde lui a créé un système qui fait qu'il mange n'importe quoi. Ça veut dire que tout déchet humain peut être pratiquement assimilé par le pain. En échange, il ne sera jamais rassasié, sûr. Comment est fait ce système-là? Un Gemara dans le traité de Nedarim, à la fin de Nedarim, qui est intéressante. Vous aimez ça, pas de rapport, mais vous voyez le rapport, il est certain. La Gemara raconte une histoire. Voilà un monsieur qui est rentré chez lui. Il croyait sa femme toute seule. Et au moment où il va prendre un verre avec un liquide à l'intérieur, il y a un monsieur qui surgit de sa chambre à coucher et il lui dit « Ne prenez pas ce liquide parce que c'est du poison. » Il n'a pas pris, effectivement, il a du poison. Amar Rava. Rava, il dit, celui-ci, c'est sûr qu'il n'est pas coupable d'adultère. Parce que celui qui, s'il avait été coupable vraiment d'adultère, il n'aurait pas pu se priver de la satisfaction de voir le mari évincé par le ciel. Ça, c'est l'histoire. La Gemara dit, pshita, c'est évident. Maïkamash malan, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? C'est évident que c'est comme ça. La Gemara dit non. J'aurais pu croire que ce monsieur-là, en vérité, il a commis l'adultère. Et il veut la vie du mari. Parce qu'on a un principe. Maïm gnuvim yimtaku velechem setarim minam. Maïm gnuvim, l'eau volée, yimtaku, elle a le goût de la douceur. Velechem setarim, et le pain qu'on mange en cachette qui a été volé, yinam, c'est celui qui est le meilleur. Donc pour pouvoir protéger sa faute, il a besoin de la vue du mari. Parce que le jour où cette femme sera libre, elle n'intéressera plus du tout. Kamash Malahan, là on a dit de l'envoi, que non, on lui passe ce principe-là. Demande ton sort, et pourquoi on lui passe ce principe-là? Peut-être que vraiment il a fait ça. Il dit ton sort une chose incroyable. Il dit tout le monde connaît ce principe, à part ceux qui commettent l'adultère. On va essayer de comprendre. Si tout le monde connaît ce principe, tout le monde sait que ce qu'on mange en cachette, qu'on ne peut pas montrer, qu'il n'est pas honorable, ça a un goût, le goût du fruit défendu. Mais si au moment où la personne le goûte, elle se rendait compte que l'unique goût c'est celui du fruit défendu, et que s'il n'était plus défendu, il perdrait tout son goût, il aurait déjà plus envie. Ça veut dire que le seul qui n'arrive pas à avoir ce principe en tête, c'est celui qui commet la faute. Et la raison pour laquelle il commet la faute, c'est parce qu'il a oublié qu'il est en train de poursuivre quelque chose qu'il n'aura jamais, et que le jour où il l'aura, ça n'intéressera plus. Donc la poursuite n'a pas de sens. Et s'il avait compris que la poursuite n'a pas de sens, il n'aurait jamais commencé la poursuite. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, mais pourquoi elle n'a pas de sens? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est ce qu'on a dit au début. Chaque sens que lorsqu'elle est employée et maîtrisée. À partir du moment où elle devient le but, alors on poursuit un non-sens. Comment on fait pour la maîtriser? Il faut être heureux de son sort. Vous allez me dire, mais comment on fait? C'est malin de dire, Ezewashir. Ezou Gibor, qui est le fort, a Kovesh et Titzro. Il n'a plus de besoin, il n'a pas d'impulsion. Mais d'abord, on ne les rencontre jamais, ces forts. Mais en plus, comment ils font? Alors, regardez ce qu'il y a marqué dans l'esprit. Il y a deux raisons pour laquelle je suis obligé d'être un hôtel. Je suis obligé de le prendre. Une raison, parce que j'ai besoin de vivre. Et que je sais que si je n'assimile pas tant et tant de produits pendant ma vie, je n'aurai pas l'énergie pour vivre. Première chose. Et c'est vrai que c'est comme ça. Et ça vient du fait de la légitimité de ma vie. Je suis un être vivant, j'ai des droits. Mais ça peut venir d'autre chose. Il est écrit dans le Rambam, dans l'Ilchot Deot, ceci. Que chez Yidbonena Adam, lorsqu'un homme réfléchira et verra toute la création merveilleuse qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour l'homme, il verra la complexité des choses de l'humanité. Il verra combien Dieu a articulé les choses et s'est donné du mal pour que lui puisse vivre. Il va être plein de reconnaissance et il va essayer de justifier pendant sa vie ce qu'Akadosh Baruch Hu a tellement investi en lui. Ça veut dire que je peux venir d'une façon brute et dire « Ah, moi, je suis là, il me faut tant et tant de choses. Je suis un preneur. C'est mon droit, c'est mon devoir. » Ou alors je peux dire non. En vérité, il faut que je donne quelque chose à celui qui m'a donné tellement de possibilités. Qu'est-ce qu'il faut que je donne? Il faut que je lui donne la satisfaction d'avoir réussi son plan. Il faut que je m'associe à lui dans ce plan-là. Ça veut dire que je suis le plus grand hôtel, mais en même temps, je suis le plus grand hôtel. Et Et à partir du moment où je verrai que j'ai donné la satisfaction, je m'arrête. Eizehu Ashir, à sa mère Bechelko. J'ai assez pour vivre. J'ai déjà justifié. Je m'arrête maintenant, mais il faut payer. Ça veut dire que quelqu'un peut justifier son être, non pas par la négative. Bravo, je suis là, il faut bien que j'existe. Je ne vais pas me laisser tomber. Mais par le positif. Et à partir du moment où le justifie par le positif, il n'aura pas de besoin qui soit plus grand que ceux qui peut donner l'humain. Ça veut dire que si quelqu'un un jour se dit, voilà, je vais accumuler, mais je ne trouverai jamais assez de monde pour leur donner tout ça, il faut que ça arrête. Ça va servir à qui et à quoi? Alors si je vis en tant que légitimité, j'ai droit à ce qu'on appelle, ou les psychologues appellent le souci. D'abord on se soucie de soi, après de ses enfants, après de ses petits-enfants. Même qui pense aux dynasties. Toutes les fouilles sont dans le monde. Ça vient de la légitimité de la personne. Qui va se soucier de mes enfants, c'est pas moi. Ils sont pas encore là, mais déjà on se soucie. Qui va se soucier des petits-enfants, ça légitime. Mais on n'est pas obligé d'être toujours en train de légitimiser sa présence. On peut dire, voilà, bon, maintenant je suis là, je ne prends pas parce que j'ai des droits. Je prends parce qu'il faut faire quelque chose dans la vie. Parce que si le monde est investi, je suis obligé, moi, de lui rendre en échange. Ça veut dire qu'on arrive à la fin à cette dimension-là. Le bon Dieu dit, ouvrit sa faune, ouvrit tes mains. Le but du messianisme, c'est la reconnaissance du clan d'Israël. Et le clan d'Israël lui répond, le but de la reconnaissance du clan d'Israël, c'est la réussite du projet divin. Ça veut dire que je n'ai de valeur que parce que je m'insère dans ce projet divin. À ce moment-là, on peut exiger de moi Eizehu Ashir, Asamar Bechelko, qui est riche, celui qui retient ça. Tu dis, mais j'ai des projets plein la tête pour encore une vie. C'est pas possible dans ce sens-là. Eizehu Gibor, tu sais celui qui est fort, celui qui sait se maîtriser. Je dis, mais comment on fait pour se maîtriser? C'est qu'on n'a pas de droit. Le quoi, Ranutila, ce qu'on va prendre, c'est pas en tant que droit. Je vais le prendre parce que je dois justifier quelque chose. Et ça, plus j'aurai fait vite mon affaire, et plus vite j'arriverai à la justification efficace qui est la Netina. Maintenant, on peut comprendre. Il y a un livre du Slipeler qui s'appelle Chaye Olam. Et il demande d'où vient l'amour entre les êtres qui ne fait pas partie du désir. Il dit le désir, on sait d'où ça vient. Mais d'où ça vient que quelqu'un aime un autre? Il dit, parce qu'en voyant l'autre, il a remarqué que c'est un être qu'il est possible d'aimer. Et en vérité, c'est ça qu'il recherche. Et le jour où il basculera et il viendra et dira, c'est un être duquel il est possible d'être aimé, il aura tout perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'attacher à quelqu'un parce que il est assez propre, ou on a assez confiance en lui, qu'il puisse faire ou être l'objet de la Netina. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Quelqu'un qui convient à mes goûts, parce que c'est difficile de donner à quelqu'un qu'on ne peut pas supporter, mais qui convient à la Netina. Si je bascule ou je fais le processus contraire, alors ça veut dire que j'aime l'amour que l'autre me porte. Ça, on est à un hôtel, il y a un moment où on n'aime plus ça. Parce que la façon dont il vous prodigue son amour, ça vous convient pas. Ça veut dire que ce qu'on appelle Ahava, c'est de pouvoir trouver celui qui correspond à mon besoin d'exister par le fait qu'un autre existe par moi. Maintenant, on comprend pourquoi le mot réa en hébreu veut dire une partie. En hébreu, le mot réa ne veut pas dire l'alter ego ou l'ami. Le mot réa veut dire une brisure ou une partie. C'est pour ça que lorsqu'on sonne le chauffard en 9 coups cassés, ça s'appelle Teroua. C'est un verset, Teroem Beshevet Barzel. Teroem casse. Casse-les. Divise-les. Le mot réa veut dire une division de quelque chose qui était entier. Si ça ne fait pas partie du même genre de ce que je pense pour moi être entier, alors je ne peux pas être notaire, parce que c'est pas le même genre que moi. C'est pas apprécié. Ça veut dire que je dois m'attacher à quelqu'un qui sait apprécier ce que je lui donne. Tu vas dire finalement, donc tu t'apprécies toi-même. C'est vrai, on n'a pas d'autre moteur. Mais je peux m'apprécier moi-même, parce que mon Dieu l'a investi là-dedans. Je ne suis pas obligé de m'apprécier moi-même en tant que droit. C'est là où la différence est faite. Ça veut dire que c'est vrai que le cas d'Israël, lorsqu'on parle de messianisme, il parle de Chadesh Yamenu Kekenem. Mais pas parce qu'on en a assez de l'épreuve. C'est parce que l'épreuve n'a de sens que si elle est venue pour aboutir à un projet. Et c'est vrai que ce projet, c'est un projet d'irresponsabilité. C'est un monde où on ne se définira plus par la responsabilité. On n'existera pas par ce qu'on maintient, par ce qu'on fait. On existera par ce qu'on est. Mais c'est un autre monde. Ça, c'est ce qu'on appelle Kedem. Avant la faute. Avant la faute, ça veut dire que je ne suis pas obligé de me mesurer tout le temps pour exister. Il existe autre chose, une mesure qui me permet d'exister, c'est ma relation avec Akadosh Baruch Hu. La relation pour un homme avec Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, elle n'est possible qu'à travers ce système-là, Netina ou Netina. Il n'y a pas d'autre solution. Dans le monde futur, on existera en tant que soi-même. C'est ça qu'on avait expliqué une fois, que la Gemara dans sa même elle dit, la différence entre ce monde-ci et le monde futur, c'est que dans ce monde-ci, un Kéli, un ustensile vide, on peut le remplir. Un ustensile plein, on ne peut pas le remplir. Dans le monde futur, un ustensile plein, on pourra le remplir. Et un ustensile vide, on ne pourra plus le remplir. Ça veut dire que ce n'est plus le monde de la netina et la netina. C'est-à-dire où l'homme doit trouver un équilibre et doit pouvoir exister. C'est le monde où l'existence en soi a une valeur. Et ça, nous ne connaît pas. On ne connaît pas ça. La seule valeur qu'on peut donner aux choses, c'est ce qui est notre produit, ce qui vient de nous. C'est une valeur qu'on connaît. Donc c'est pour ça, Ve'avta l'oreach kamocha, lorsqu'on dit comme toi-même, ça veut dire, aime l'autre pour tout ce que tu lui donnes, donc c'est toi-même. Dans la théorie, c'est très facile. Dans la pratique, ça met toute une vie. Pourquoi est-ce que ça met toute une vie ? Parce que l'appréciation des choses, elle dépend de la colonne vertébrale de la personne. Il faut savoir que la netina, elle peut ne pas être appréciée. Et qu'il n'y a que la netina qui apprécie. Ça veut dire qu'on doit avoir un système de référence qui est soi-même. Si le système de référence, c'est l'autre, alors c'est déjà une économie de marché. Et dans l'économie de marché, bien qu'on condamne le voleur, parce qu'il a exagéré dans l'anutilat, mais le profiteur, celui qui amasse du profit, rien que pour amasser du profit, on ne le condamne pas, au contraire. On montre. Alors aujourd'hui, on se gêne un peu. On dit oui, il fait vivre l'état de travailleurs. On trouve de quoi faire pour justifier la chose. Mais ça ne justifie pas. Pourquoi ? Parce que si on regarde par rapport à l'autre, je ne suis pas obligé d'en faire plus que ce que la société me demande. La société n'est pas là pour donner un sens à ma vie. Elle est là pour donner des limites à ma conduite. Alors je ne te prends rien. Je ne vole personne. Je suis bien. D'un côté, il n'y a aucun sens dans les choses. Parce que la société, elle n'est pas là pour régir ma vie, c'est vrai. Elle est là pour régir ma conduite. Mais ma vie, il faut que je lui donne un sens, il faut que j'existe quelque part. Et je ne peux exister que par rapport à ce que je reconnais dans l'autre. Parce que sinon, ça n'a pas une vraie existence, ce n'est pas extérieur à moi. C'est toujours moi. Et moi, je peux me dire que j'existe. Je n'ai pas de preuve, on dirait. À part le fait de penser à ça. Mais en tout cas, ça n'est pas un fondement de l'existence. Le fait de réclamer des droits n'est pas un fondement de l'existence. Le fondement de l'existence, il doit être positif. Et ce positif-là, on n'existe que par rapport à ce qu'on sait produire. Donc maintenant on comprend un peu mieux le verset. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait venir le vent de là et de là, et que chacun revienne, afin que Yizou Besamav, qu'on puisse en fin de compte sentir ce parfum-là, ça c'est le fin du fin vis-à-vis du peuple juif de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais il en reste que Yavododi Lugano Veyochal Prim Gadam. Maintenant, on peut comprendre le verset suivant. Vous savez que les chapitres n'ont pas été divisés par les juifs. En vérité, le verset suivant, il fait partie du même chapitre. Bati le gani achotikala. Je suis venu dans mon jardin achotikala. Ça veut dire, c'est déjà arrivé quelque chose qui ressemble à ce que va être les temps messianiques. Ariti mori imbesami. J'ai déjà absorbé le myrte avec l'encens. Achalti yarim divshi. J'ai déjà mangé, c'est ce que c'est Yari. Yari, c'est là où les abeilles font le miel, on appelle ça la ruche. Shatiti yeinim chalavi. J'ai mangé, j'ai bu mon vin im chalavi. On voit ce que ça veut dire, avec mon lait. C'est pas avec. Ichlu reim shetu veshichu dodi. Ichlu reim, ça veut dire manger mes amis. Shetu veshichu, buvez et enivrez-vous, Dodim, mes compagnons. C'est là que s'arrête le chapitre. Tous les commentateurs expliquent le seul rapport, ce qu'on appelle Me'ein, vous savez qu'en hébreu on dit Me'ein. Me'ein, ça veut dire un coup d'œil vert. Me'ein olam haba. La quintessence. Comment est-ce qu'on peut voir que Dieu puisse résider au milieu des hommes dans le Beit HaMikdash? Et ce verset, il parle du Beit HaMikdash. Bati le gani achotikala. Je suis venu au Beit HaMikdash. Achalti yari, c'est les sacrifices que le peuple juif offrait à Kadosh Baruch Hu. Achalti yari indibshi. Rashi dit, j'ai mangé la ruche avec le miel. C'est-à-dire que il y a des choses qui n'étaient pas consommables dans ce Beit HaMikdash. Et que malgré tout, à cause de l'amour de Akadosh Baruch Hu pour son peuple, on a toléré dans le Beit HaMikdash. La même chose, Shati Einim Chalavi. Il n'y a pas de chalav, il n'y a pas de lait. Mais ici, ça veut dire, hein, à profusion, en plus, tout ce que je pouvais, Ichlu Reim Veshitu Veshichu Donim, Ichlu Reim, ça veut dire que le Beit HaMikdash, il est fait pour qui? Il est fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas vrai. En fin de compte, il est fait pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la façon qu'a l'homme de pouvoir rencontrer Akadosh Baruch Hu et de pouvoir expier tous les fautes et de pouvoir faire ce qu'on appelle la avoda, le culte. Ça veut dire que le Beth Amikdash, la rencontre qui existe entre la présence divine et le peuple juif, on voit, mais on voit par le trou de la serrure ce que ça peut être que l'Olam Haba. C'est-à-dire que le peuple juif, il offre quelque chose à Kadosh Baruch Hu, mais en vérité, cette offrande-là, c'est sa propre existence. Et sans cette offrande, il ne peut pas justifier sa propre existence. Ça veut dire que si vous demandez au peuple juif, lorsqu'il allait au Beth Amikdash trois fois par an, pourquoi tu allais? Pour amener le sacrifice. Et d'un autre côté, c'est utile pour le peuple juif. Ça veut dire que le peuple juif ne peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire qu'on retrouve le rapport qui existe entre le notem et le mekabel, le notel et le notem, celui qui donne et celui qui prend, ça devient un rapport parfait. Ça veut dire qu'à partir du moment où je prends un enfant et il est évident que je ne l'aime pas pour ce qu'il est, puisque je l'ai eu pour l'aimer, et que lui rend cette chose-là, il reconnaît cette chose-là et essaye de justifier ça, alors le rapport, c'est le rapport parfait. C'est-à-dire qu'il y a une existence pour deux. Si l'un des deux est notel, il a fait ça pour sa retraite, ou l'enfant il essaie de profiter et il n'essaye pas de justifier l'amour des parents, alors à partir de ce moment-là, il y en a un des deux qui n'existe plus dans le rapport. C'est-à-dire que le rapport entre eux et les êtres, et Akadosh Baruch Hu, il n'est fait que de cette articulation de la Netila et la Netila. Passons aux questions.
Vous avez déjà plusieurs reprises de la satisfaction de Dieu, mais vous avez aussi dit que Dieu n'a pas besoin. Quel est le sens de la satisfaction de Dieu?
Satisfaction, ce n'est pas en tant que besoin, c'est en tant que projet. En vérité, moi, j'en sais rien. Il faudrait savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. C'est quelque chose de difficile à définir. Mais en tout cas, c'est un projet. Ce projet, il doit aboutir quelque part. À partir du moment où il aboutit, alors ce qui a été fait a une valeur. Maintenant, en quels termes ça s'exprime? Il faudrait être sûr d'avoir l'Olam Haba pour le savoir un jour.
La meilleure façon de voir ce qu'on a donné se concrétiser, ça peut passer par un maître avec un élève. Et est-ce que la meilleure façon de se construire,
c'est aussi
ça passe par l'étude,
de
se
remplir. Ça, de toute façon, mais je ne sais pas si ça a à voir avec ça. Toute relation est obligée de passer par ce système de notem, et que le notem, en vérité, lui reçoive la même chose que ce qu'il a donné. La différence, on a une fois dit, la différence entre le maître et l'élève, c'est que c'est l'élève qui justifie le maître, et pas le maître qui justifie l'élève. C'est une force qu'a l'élève sur le maître. Ça veut dire que quoi? C'est que l'élève, c'est vrai qu'il peut ne pas être élève, s'il n'a pas de maître. Mais il peut choisir son maître. Ça veut dire que il y a une démarche qui fait que je n'existe que grâce à l'autre. Alors c'est vrai qu'une fois qu'il a choisi le maître, il n'est élève que grâce au maître. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on oublie souvent que c'est pas une relation seulement de notel, et que l'autre il est seulement notel, parce qu'il apprend. C'est le fait que l'autre il puisse être maître, c'est aussi une relation. Je dis pire que ça. La Gemara elle dit Yoter Mimaché. A Egel Rotse Linak a Para Rotsa Lanik. Plus que le veau veut prendre de sa mère est obligée de lui donner. Ça veut dire que les fonctions sont tellement bien faites que l'un se justifie par rapport à l'autre. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui a quelque chose à donner et qui cherche des gens à qui donner, il est en meilleure position que quelqu'un qui veut recevoir et il cherche de qui recevoir. C'est une grande erreur qu'on fait. Ça veut dire que le maître est transformé en maître grâce à l'élève. Et il y a des choses qu'il ne pourra comprendre que parce que il a des élèves. Mais non, c'est vrai que l'élève aussi, c'est la même chose. Mais on croit toujours que c'est dans un sens. En réalité, c'est dans les deux sens. Ça, c'est la grande force de l'élève.
On a finalement une personne qui est jeune. Elle a beaucoup d'appétit et elle a peu de sagesse pour calmer cet appétit. Une personne qui est âgée, elle est très sage, mais elle a peu d'appétit. Donc, finalement,
c'est mal fait.
C'est mal fait, on devrait. Enfin, ça devrait. Entre guillemets, c'est mal fait. Ça doit être bien fait, mais
absolument.
Moi, c'est bien fait quand même.
Je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, un élève m'a demandé. Il écrit dans la Gemara Zaken ve'eno lefi kvodo. On parle là-bas le fait d'être obligé de ramasser un objet dans la rue et de le rendre à son propriétaire. Et la Torah emploie un mot. Et la Gemara dit Zaken, si c'est quelqu'un qui est Zaken, c'est un vieux, et que c'est pas de son cabot de ramasser les objets dans la rue, il n'est pas obligé de le faire. Ok, la Gemara dit Zaken, c'est quoi? Ze shekana chochma. C'est celui qui est chacham, c'est pas un vieux. C'est que les ans qu'il en fait vieux. Donc la définition du Zaken, c'est le Chacham. Alors après avoir expliqué ça, il y a un élève qui m'a demandé, il m'a dit, bah alors qu'on appelle Chacham, prends le budget de là. Il a répondu lui-même, il m'a dit, vous savez pourquoi? C'est parce que celui qui conçoit déjà les choses tout seul, il n'a pas besoin de la vie pour le rendre Chacham. Il peut déjà être vieux, jeune. Ça veut dire quoi? La plupart des gens, pour acquérir les notions, ils ont besoin de se cogner au mur. Ce qu'on appelle la vie. La vie, elle va vous former. Seulement, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'une fois qu'elle vous a bien formé, on s'en va. C'est bête d'être formé par la vie. Si on est formé par la chokhma, alors on est déjà vieux jeune. Et on n'a pas eu besoin que la vie vous forme. On est déjà un zaken jeune. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est vrai que c'est mal fait pour celui qui attend de chaque fois s'informer. Lorsqu'il s'est cogné, il va rechercher la porte. Mais celui qui essaie de ne pas se cogner d'abord, il recherche la porte avant. On appelle ça un chacham. Donc il est zaken déjà. Donc on peut être vieux très jeune. Et là, c'est bien fait. Ah, bien sûr. Évidemment.
Sur le fait que celui qui travaille de ses mains, et donc
je vais dire la Yirat Shamayim.
La question est, est-ce qu'il y a un rapport entre la
Yirat Shamayim
et la
Tachem
et le
Notel Bien sûr. Non seulement il y a un rapport, mais quand on dit que celui qui est qui de ses mains, ça veut dire qu'il peut calculer exactement ce qu'il est Notel. Ça, c'est mieux que celui qui irait Shamaï. Pourquoi? Parce que celui qui irait Shamaï, il est toujours obligé d'avoir peur. Peut-être hein. J'en fais plus, peut-être j'en fais moins. Mais celui qui travaille de ses mains, il sait exactement s'il a pris plus que ce qu'il fallait. Donc, il a gagné ce que l'autre a pris un temps énorme à faire. Si je sais que je peux vivre avec un bénéfice de 10%, pourquoi je vais faire de 20%? Quand je ne travaille pas de mes mains, c'est très difficile d'estimer. Et je suis toujours en deçà de mes estimations. Donc je suis toujours quelqu'un qui est notel et justifié d'être notel. Parce qu'il vaut mieux être en deçà que manquer. C'est évident. À partir de moi, ça, ce qu'il veut dire. Il veut dire, le yagiat kapaim, ça a une valeur. Très simple. L'heure de travail, on sait combien c'est. Maintenant, ce que tu as à Taïwan, tu as trouvé un marché, ton machin, tu es le premier, que tu as le droit de prendre 80%, 100%, 200, 300, 400. Jusqu'à ce que... Comprenez, je vous donne un exemple. Le même objet que vous payez 3000 francs, aujourd'hui on vous le donne gratuit. Et on trouve tout à fait normal que celui qui a pris 3000 francs, il se soit enrichi, on dit que c'est un très grand chacham. Mais il y a quand même un vice dans le problème. Il y a quand même un vice dans le... Ça veut dire qu'il devrait avoir une limite. Et pourquoi l'autre conçoit qu'il n'y a pas de limite? C'est lui qui a trouvé. Ça n'a pas. Il va dire, mais d'avoir trouvé ce truc-là, ça n'a pas de prix. quand on raisonne comme ça, ça veut dire qu'on raisonne pas par rapport à ses besoins ou par rapport à ce qu'on va en faire. On raisonne objectivement, que c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Ça veut dire que quoi ? Qu'on va dire comme ça. Le Rav Etzraïm, en fermant son magasin, en vivant de ses livres, il a donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce que je vais trouver besoin d'une autre façon. Je suis plus un concurrent sur la place du marché. Mais si je regarde pas, je regarde pas ça comme ça. Je regarde que tu as vu une petite idée, mais ça vaut de l'or. Je vais vous montrer là où vous voyez le défaut qui amène et où on voit que la chose, on dirait vulgairement, ça se mord la queue. Allez une fois au concours Lépine. Vous allez voir des inventeurs géniaux. La seule chose qu'ils savent faire dans la vie, c'est inventer. Et dès qu'ils ont la découverte, ils perdent tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça n'a jamais la valeur qu'ils leur donnent. Donc, il ne faut jamais le vendre. Et puis le temps qu'ils aient pris pour les tractations, il y en a déjà trois qui l'ont copié, ça ne vaut plus rien. Et on continue. Et toute la vie, c'est comme ça. C'est les gens qui ont les inventions les plus géniales. Et vous allez voir, c'est les trucs à lesquels on se demande comment quelqu'un peut penser. Et ils ont toujours tout perdu, ces gars-là. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de donner une valeur à une chose pareille. Donc on va essayer d'aller au maximum du maximum. C'est toujours à voir. Ça veut dire que le système ne marche pas. C'est que celui qui poursuit tellement le gain, il n'aura jamais de gain par définition. Il y a un moment où il faut savoir dire, je m'arrête. Sinon, on n'est même pas capable de s'insérer dans le marché. Il vient celui qui est plus malin, il a moins besoin, et puis il vous a pris tout. Donc on voit bien que quoi ? Que la fin, elle n'engendre que la fin. On n'en trouvera jamais quelque chose d'assez bon pour pouvoir se mettre sous la dent. Alors à la fin, on devient, c'est quoi votre métier ? Inventeur. Ah mais c'est fou, comment ? Tu inventes et tu n'as jamais réussi à commercialiser. Tu n'as jamais réussi à... Non. C'est ce qui veut dire le Rav Etzraïm. Il y a des choses qui ont un prix. Il y a un prix, tu peux dire, je prends ton temps, j'ai besoin de ton temps. Je t'arrête. Au moins, il y a une valeur à la chose. Des choses qui n'ont pas pris. Et la légitimité qu'on donne aux choses qui n'ont pas de prix, c'est parce que chacun estime que le système est bon. Parce qu'il voudrait bien lui aussi être à la place du... Mais personne ne dit que ce système est bon. Absolument.
Donc, commence et se termine par lui, et nous, on va seulement donner la volonté, tout le chemin, tout au long du chemin.
Absolument.
Premièrement. Deuxièmement, est-ce que, par rapport au deux, à la deuxième partie, il y a une réflexion, Yahvé Indéchi, est-ce que c'est des choses.
Yahvé Imchalabi. Oui, c'est des choses spécifiques, regardez le Rachid. C'est des choses, oui, qui se passent dans le temps, qui sont très techniques.
Parce que dans le départ, déjà, il y a eu des choses qui n'étaient pas en Warjan, c'est-à-dire le Hegel lui-même.
Non, on ne parle pas des choses interdites. On parle des dérogations qui ont été faites. Par exemple, que les Nessim, les princes, c'est eux qui ont fait les corbanotes alors qu'ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas le droit de le faire normalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la présence divine réside, les règles, elles ne sont plus exactes comme avant. Voilà, si on veut. Il y a moins besoin de règles.
Quand on dit que la Netila, finalement, c'est un système qui est un peu fou parce qu'on prend pour
prendre,
et ça n'a pas de sens. Je pensais un peu au modèle classique français, ancien du noble, qui prenait de tous les côtés, mais qui était très généreux, finalement. Il prenait pour donner, il donnait des fois plus que ce qu'il... Que ce qu'il prenait. Donc finalement, je veux dire, bon, c'est un système qui est immoral, mais qui a un sens finalement. Puisqu'il ne prend pas pour prendre, lui, il prend pour. Il claque.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est immoral et ce qui est moral. Je vais vous dire, immoral et moral, ça dépend beaucoup du temps. Ça dépend de l'opinion qu'on se fait. Mais si quelqu'un prend et qu'il redistribue tout, finalement, pourquoi je l'appelle preneur ? Je l'appelle redistributeur. peux même ignorer qu'il prenne. Ce qui est capable de redistribuer plus. C'est ce qu'on essaye de faire croire. Aujourd'hui, en essayant de quitter le système du yogi incapable d'avoir une estimation claire pour chaque chose, et le fait de pouvoir le jongler, ça fait qu'on donne une estime parce que on essaie de dire, mais finalement celui-là, il donne beaucoup plus qu'il prend. En vérité, c'est tout à fait faux. Parce que celui qui a 1000 employés, il ne peut quand même pas avoir un salaire 1000 fois plus que les employés, donc il prend toujours moins. Mais ça ne veut pas dire que le système est cohérent. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et c'est vrai que sans lui, ça ne marcherait pas. Donc il n'y a pas de prix. C'est pour ça que le prix n'est pas de rechercher la valeur de la chose. C'est de rechercher le besoin. Tu ne devrais pas avoir de prix plus que ton besoin. Vous comprenez ? Maintenant, je vous dis encore une fois, du point de vue de la société, c'est impossible d'imaginer une société qui régulerait, parce qu'on va en arriver au communisme. Pire que ça encore, on va arriver qu'on travaille pour tout le monde, et pourquoi je veux me crever, puisque de toute façon, on travaillera. Donc à la fin, le système se casse. Donc on est obligé de laisser une initiative individuelle. Ce dont on parle, c'est la façon dont à l'individu de se déplacer dans le système. Il s'agit que la morale ou pas la morale, ça dépend tout à fait de comment on voit les choses. Ok.